à chaque élection, ils nous font coup de la sécurité et à qui il faut plus de police, plus de caméras, des drones, à qui veut faire une nouvelle brigade à cheval, à vélo, à trottinette, enfin, il faut avoir tout pour faire de la police, quoi.
Comment est-ce qu'on peut accepter une ville où y a 40 enfants à la rue et que on n'ouvre même pas une école qui pouvait possiblement les accueillir?
Dans cette société capitaliste, la démocratie, même quand elle est participative, c'est cause toujours, de toute manière, c'est pas nous qui décidons.
Il faut que personne ait moins de 2000 euros net par mois pour vivre, qu'on travaille, qu'on travaille pas, qu'on soit au chômage, en invalidité, enfin, etc.
Dans cette société, parce qu'elle est divisée en classes, il n'y a pas de bonne police.
Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission sur le média On est là. Une série de 4 émissions dans laquelle nous interrogeons le programme des listes de gauche candidates à la mairie de Limoges. Cette émission est diffusée sur YouTube en vidéo, mais aussi disponible en audio sur SoundCloud. Vous retrouverez le lien dans la description. Aujourd'hui, nous faisons la 4e émission sur les municipales qui se tiendront, rappelons-le, le 15 et 22 mars prochain. Nous recevons donc la liste Lutte ouvrière, le camp des travailleurs, menée par Elisabeth Faucon. Donc pour représenter cette liste, nous recevons Elisabeth Faucon. Donc vous êtes enseignante, souhaitez-vous compléter votre présentation ?
Alors oui, ça c'est ce que je fais dans la vie, mais sinon surtout je suis militante à Lutte ouvrière, ça veut dire que je suis communiste révolutionnaire, que je suis révoltée par cette société depuis toujours et que je pense que le seul avenir qu'on peut préparer, c'est de la renverser.
Ouais, bien merci. Et pour vous accompagner, donc le numéro 2 sur la liste, Benoît Bertrand, vous êtes informaticien. Et de même, souhaitez-vous compléter votre présentation ?
J'ai complété un peu parce qu'on ne me connaît pas. Je suis moi aussi militant à la Lutte ouvrière, communiste, révolutionnaire, parce que quand j'étais jeune, j'étais révolté et en colère contre cette société. Et malheureusement, la colère, ça ne suffit pas parce que si on ne sait pas contre qui la diriger, ça ne sert à rien. Et la révolte... faut aussi la transformer en force collective. Pendant le mouvement CPE, ce que j'ai pu observer, c'est que pendant des mois, on était dans la rue avec nos slogans en train de dire « Tout ce que le Parlement fait, la rue peut le défaire ». La loi, elle avait été votée. Et pourtant, c'est quand les travailleurs ils se sont mis en mouvement, quand ils nous ont rejoints dans la bagarre, quand ils se sont mis en grève, c'est à ce moment-là que le gouvernement, où il y avait quand même Sarkozy et Villepin, il a reculé. Donc ça, pour moi, c'est la confirmation de ce que dit Marx. Les travailleurs, quand ils sont conscients, quand ils se mettent en bagarre, eh ben, c'est eux qui ont la force de changer la société. Je suis passé par différents métiers. J'ai été vendeur par téléphone, démarcheur. J'ai fait magasinier cariste. J'ai connu le chômage, les licenciements économiques, mais aussi les licenciements pour inaptitude. Parce qu'au travail, on y laisse aussi notre santé. Aujourd'hui, je suis informaticien. Et demain, je sais pas. Parce que dans la société dans laquelle on vit, on peut être licencié du jour au lendemain. Et on a beau tout produire dans cette société, les travailleurs, on décide de rien. Même pas de notre avenir. Donc toutes ces expériences, moi, ça me conforte dans mes convictions qu'il faut changer cette société, qu'il faut faire la révolution et s'attaquer aux vrais responsables, ceux qui tiennent dans leurs mains le pouvoir économique, politique, qui détiennent les moyens de production et qu'il faut les empêcher de nuire rapidement.
Donc merci pour ce complément d'information. Donc pour rentrer dans le vif de l'entretien... Tout de suite, pour commencer cette interview, si vous gagnez la mairie de Limoges en mars prochain, quelle sera la première décision de votre mandat ?
Alors, on vient de dire et on pense que c'est pas les élections qui changeront le sort des travailleurs. Mais bien sûr qu'on se présente quand même pour être élu. Et si on a un avis. Alors ce que je dirais comme première mesure, ça serait de rendre public tous les contrats, toutes les délégations, par exemple, de services publics, c'est-à-dire savoir exactement Où va l'argent? Parce qu'aujourd'hui, les municipalités ou métropoles, hein, parce que là, il y a quand même, maintenant, c'est tout quasiment au niveau de la métropole, eh ben, on voit qu'il n'y a aucun service rendu qui ne passe pas par un grand groupe du bâtiment, un grand groupe de l'énergie, etc. Et ça, eh ben, c'est combien est-ce qu'il y a d'argent qui va dans la poche des actionnaires? Combien est-ce qu'il y a d'argent qui finalement est ponctionné sur ce qui devrait aller en service à la population? Et dans la société dans laquelle on est, ben, il y a le secret commercial, industriel, bancaire, et qui fait qu'en réalité, on n'a pas accès aux informations. On a accès globalement à un budget. Mais voilà. Et donc, une des mesures qui irait dans l'intérêt des travailleurs, eh bien, c'est c'est de lever tous les secrets. Et de rendre public, de pas demander l'avis, de se dire, les travailleurs, on défend les intérêts de notre camp, et les intérêts de notre camp, c'est que nous, il n'y a pas de secret, donc on donne tout.
Pour continuer, on voulait aborder maintenant le rôle que les habitants et les habitantes de Limoges peuvent jouer dans les prises de décision qui les concernent. Et du coup, cette notion de démocratie participative, dont on entend beaucoup parler, qu'est-ce qu'elle évoque pour vous?
Premier réflexe. Nous, on veut une vraie démocratie, la plus large possible. Ça veut dire qu'on ne veut pas seulement participer, on veut décider. L'exemple que je donnerai, c'est la Constitution européenne. Ils nous ont fait voter. Tous, on a voté contre. Ils l'ont appliqué quand même. Rue du Chargevaux, actuellement, ils ont fait des aménagements, ils ont décidé de faire participer la population, ils ont fait une première réunion, le maire a claqué la porte parce que tout le monde était contre sa proposition. Il y a eu une pétition, plus de 1000 personnes l'ont signé en expliquant pourquoi ils étaient contre. Au final, il y a eu une deuxième réunion où il fallait appliquer les décisions de la mairie. Entre Niol et Couzex, actuellement, ils sont en train de faire une nouvelle deux fois devoir. Ils font un site internet sur lequel ils demandent l'avis des gens. Il y a plus de 300 réponses, 280 personnes qui ont donné leur avis contre. Ils la font quand même, cette route. Donc, dans cette société capitaliste, la démocratie, même quand elle est participative, c'est cause toujours, de toute manière, c'est pas nous qui décidons. Ceux qui décident, c'est les grands groupes capitalistes, les Legrand, ceux qui nous dominent, qui, encore une fois, concentrent entre leurs mains les moyens de production, le pouvoir économique et la richesse. Nous, on n'a pas vocation à être des bons gestionnaires de la misère et seulement appliquer les décisions qui sont décidées ailleurs. Les travailleurs, pour nous, ils doivent décider pour eux-mêmes, c'est-à-dire qu'une vraie démocratie, ça sera quand? Dans les usines, dans les hôpitaux, dans les transports, tous ceux qui font tourner la société décident réellement de tout ce qui peut s'y passer. Il faudra pour ça que les élus y soient révocables par l'ensemble de la population et sous contrôle permanent de tout le monde. Là, actuellement, on nous demande d'élire un maire, mais c'est pas les maires qui décident des fermetures d'usines, qui décident où on va aller faire la guerre demain et pourquoi et pour s'approprier quelle richesse. Les maires, au final, c'est les derniers maillons de toute une chaîne où les capitalistes imposent par le haut et nous, à la fin, on ne doit que appliquer. Donc voilà, si la question, pour nous, au final, ça devrait être plutôt de qui dirige vraiment cette société et jusqu'à quand on les laisse faire.
Est-ce que la démocratie représentative, ça vous paraît être un modèle satisfaisant? Est-ce qu'il faut en sortir?
Là, nous, ce qu'on dit, c'est que la démocratie, la plus importante, la démocratie ouvrière, c'est de dire, c'est un changement de société, c'est autre chose. C'est de dire, on prend en main nos affaires, on agit par nous-mêmes. On construit une autre société, on conteste le pouvoir de la société actuelle. Parce que sinon, toutes les formes qu'on peut nous proposer, elles sont biaisées. Elles sont biaisées parce qu'à un moment, on nous dira que c'est pas possible. On nous aura fait croire, on nous aura leurré pendant un moment, fait construire des choses, etc. et on verra les limites. En ce moment, on a un exemple un peu qui montre même des fois de ce qu'on veut dire. Je vais prendre l'exemple de Minneapolis, où là, la population est confrontée à un vrai problème, ICE, et une nécessité de protéger la population, de se protéger, d'empêcher, d'arrêter des travailleurs. Bon, ben, pour nous, c'est la démocratie, justement, la plus large, c'est de dire, ben, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on s'organise et on agit. Et on n'a pas besoin de structures, on les fera nous-mêmes, les structures. Nous, on parle de comités de quartier, de comités d'usine, c'est de ça qu'on parle. Et ça, c'est des structures spontanées au plus bas, au plus proche, dans les quartiers, dans les usines, partout où c'est nécessaire. Et on agit. En ce moment, il y a des coins, alors pas Limoges, très peu, où il y a des inondations terribles. Eh bien, on voit les gens... Qui c'est qui s'organise pour pallier à toutes les défaillances qu'il y a ? Parce qu'après, c'est même pas des choix de maire. Ben, c'est qu'il n'y a plus. Même les pompiers, ils n'ont plus le matériel. Ils ont qui est-ce qui a une pompe ? Qui est-ce qui a un truc ? Ben, les gens, ils s'organisent. Justement, la population, elle s'organise. On fait tout dans la société. On sait tout faire, en fait, parce qu'on fait tout. Et donc, eh ben, voilà, c'est de ça qu'on parle, en fait. Et donc, s'exprimer, c'est pas attendre qu'on nous demande quelque chose, c'est pas attendre qu'on nous donne le droit, c'est prendre la parole.
Et je dirais que faut pas réserver la politique à des experts. Enfin, tous les politiciens professionnels, ils t'expliquent que le sujet, il est compliqué, qu'eux, ils savent mieux que les autres. Les travailleurs, c'est pas des imbéciles. Il ne faut pas réserver la politique à des cabinets d'experts qui décident dans l'ombre et qui, après, te mettent devant le fait accompli et te disent « Nous, on sait mieux que toi ». Ça, pour moi, c'est quelque chose de révoltant. On n'est pas des imbéciles. On a une intelligence collective, on peut partager, on peut diriger la société.
Comment vous... aujourd'hui, les comités de quartier, les comités de travailleurs d'entreprise, ils n'existent pas. Et du coup, comment vous amenez les personnes qui n'ont pas l'habitude de prendre la parole, etc., à venir s'impliquer dans ces organisations-là ?
Ben, je crois que c'est justement... Nous, on milite au quotidien. Hein, on n'est pas que présent dans les élections. Et ben, militer au quotidien pour nous, c'est faire ça. C'est-à-dire, justement, c'est dès qu'on a l'occasion, rassembler nos collègues, discuter, c'est-à-dire faire que tous les jours... On discute de tous nos problèmes, de toutes nos difficultés, avoir un avis, savoir quel est notre intérêt. Et ça, bah, ça peut que se construire en faisant. Et ça peut que se construire avec des militants. Alors oui, aujourd'hui, bah, y a pas assez de militants. Ça, c'est un fait. Il faut que particulièrement la jeunesse, elle se dise qu'avec l'avenir qu'on prépare, il va falloir s'organiser et puis défendre ses idées. Et voilà, en tout cas, ça se construit comme ça.
Et alors, du coup, dans la continuité de ça, et peut-être un des derniers points sur ce thème, si vous remportez la mairie, la mairie accompagnera des initiatives comme ça, mais comment l'accompagner sans arriver avec l'autorité du maire ?
Moi, je ne me pose pas la question de cette manière-là. C'est l'inverse. C'est comment ces comités de quartier, comment ces militants qui interviennent dans les boîtes déjà et qui interviennent aussi dans les quartiers, eux, en créant leur comité, vont faire irruption dans la vie politique pour contraindre le maire. Parce que, enfin, et même plus, c'est s'en passer du maire, au final.
Et si on était élu, ben, on mettrait, justement, tout ce qui est possible au service de la lutte de tous les travailleurs ou les habitants. On parle là tous les problèmes de logement, etc. Lutter contre les bailleurs. S'organiser contre les bailleurs, s'organiser pour que enfin les travaux soient faits, pour que les loyers soient abordables, etc. Ben nous, on mettrait notre énergie et tous les moyens possibles au service des travailleurs qui se pour toutes leurs difficultés. Et ça, c'est effectivement, comme disait Benoît, c'est l'inverse.
Et justement, on va enchaîner sur la thématique du logement.
Ouais.
On sait qu'il y a un certain nombre de personnes qui dorment à la rue à Limoges, notamment là, le collectif Aucun Info à la rue a dénoncé 40 enfants qui dorment à la rue cet hiver. Comment est-ce que vous feriez pour que plus personne ne dorme à la rue à Limoges ?
Déjà, c'est... dire qu'on veut changer la société, c'est justement déjà se dire comment est-ce qu'on peut accepter une société, une ville où y a 40 enfants à la rue et que on n'ouvre même pas une école qui était possible, qui pouvait possiblement les accueillir. Ça déjà c'est quand même vraiment extrêmement révoltant. Et là, nous, c'est pas difficile. On dit, il y a des logements disponibles. Il suffit de recenser les logements disponibles et de les réquisitionner pour que tout le monde ait un logement. Ça, c'est la première des choses. Avoir un toit, c'est vital. Donc, il faut assurer ce droit vital à n'importe qui. Nous, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit.
Le pouvoir de réquisition, pour l'instant, il est réservé au préfet. Comment vous faites, du coup? Parce que... légalement, les maires n'ont pas ce pouvoir-là.
Et si jamais les municipalités devaient obtenir ce pouvoir, puisque voilà, il y a eu le jour de la niche parlementaire des écolos, ça a été proposé. Vous, en tant que municipalité, utiliseriez-vous sans difficulté la réquisition?
Alors, je veux juste dire un mot quand même sur ce qui a été proposé et ce qui est proposé en général. C'est quand même une compensation pour les propriétaires. C'est-à-dire là, quand même, on leur propose de réquisitionner leur logement, de faire les travaux dedans, de les louer, et donc de leur donner un loyer, c'est-à-dire que ces propriétaires qui ne percevaient rien de leur bâtiment, ils vont finalement être gagnants dans l'affaire. Alors moi, quand je parle de réquisition, je ne parle pas de ce type de réquisition-là. Justement, le problème, c'est que dans cette société, tout est rapport de force et tout sera rapport de force. Faut pas, parce que là, si on parle des préfets, les préfets, ils peuvent retoquer toute décision que prend un maire, toute décision. L'État, à un moment, peut dire, mais non, je suis pas d'accord. Alors nous, quand on parle de réquisition, on parle aussi de rapport de force, justement. Du monde du travail, en disant, il faut un toit, donc il faut qu'on prend. Voilà, on prend.
Et du coup, dans cette démarche de rapport de force, et notamment sur la thématique du logement, il y a plusieurs communes, par exemple Grenoble ou Chambéry, qui ont attaqué l'État, considérant que l'État a manqué à ses missions. Est-ce que tu veux préciser pour aboutir sur la question qui est de savoir, est-ce que la mairie de Limoges, si elle est chez vous, elle ne les ignorera pas à attaquer l'État quand l'État est défaillant.
Il a très bien posé.
Continue, je ne sais pas comme tu veux.
Je ne saurais pas comment le prendre. Enfin, tu vois, est-ce que la mairie, elle va attaquer l'État? Enfin, mais si nous, les travailleurs... On ne parle pas de mairie. Nous, les travailleurs. Nous, dans les quartiers. Nous, dans les usines. Bien sûr que notre ennemi, c'est l'État. L'État, actuellement, il est au service des patrons. Donc, c'est notre premier devoir, c'est de s'attaquer à l'État.
Puis, l'État, il est attaquable sur tout. Parce que, justement, même nous, on dit qu'il n'y a pas de problème local qui ne soit pas plus large, qui ne soit pas, finalement, un problème national et un problème de société. Ah oui, parce que l'État, il est défaillant partout. Il est défaillant dans le budget qu'il donne aux collectivités pour assurer les services à la population. Bien sûr qu'il est défaillant sur le logement. Et au passage, un des décrets là, qui vient de passer, c'est d'enlever l'obligation des 25%, c'est-à-dire même le peu qu'il y avait de dire « il faut du logement social ». Aujourd'hui, on dit « non, faut supprimer du logement social ». Alors, même des fois au prétexte de mixité, mais surtout au prétexte de chasse aux pauvres. Hein, et d'avoir des... Maintenant, on veut des locataires, même dans les HLM, qui soient capables de payer leur loyer. Nous, on dit que pour que les locataires ils puissent payer leur loyer, il faut que les salaires ils augmentent. Hein, c'est pour ça que les solutions, parce que les solutions à tous les problèmes, c'est de mettre fin au chômage. C'est de se dire qu'il faut répartir le travail entre tous. Il faut que personne ait moins de 2000 euros net par mois pour vivre, qu'on travaille, qu'on travaille pas, qu'on soit au chômage, en invalidité, enfin, etc. Et bah, une fois qu'on a dit ça, bah, on aura de quoi se loger. Parce que même là, quand on parle du logement, on veut toujours nous faire prendre les problèmes à l'envers. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va gérer la misère? Comment est-ce qu'on va se débrouiller à quelqu'un qui a pas les moyens ou quelqu'un qui est à la rue, etc. Les personnes devraient être à la rue parce que tout le monde devrait avoir les moyens de vivre. Et ça, il faut qu'on se mette dans la tête que c'est possible. Que c'est possible qu'il y a largement les moyens. Il n'y a jamais eu autant d'argent qu'en ce moment. Ça pleut de partout. Les milliards. Et il faudrait trouver des solutions de rafistolage pour essayer de dire bon, c'est pas terrible ici, vous avez pas bien l'eau, enfin voilà, falloir vous contenter d'un truc temporaire ou je ne sais quoi. Non, nous justement, enfin c'est pour ça qu'il faut poser les problèmes à la hauteur de ce qu'ils sont.
Alors on peut peut-être quand même aller un peu dans ce qu'on pourrait imaginer comme être un logement. Idéal peut-être pour vous. Est-ce que vous imagineriez comme système qui permettrait d'avoir que chacun puisse avoir un logement, peut-être gratuit, j'en sais rien, accessible à tous et toutes?
Vous savez, moi je pense que on a des envies qui sont limitées. C'est quoi un logement? C'est d'avoir un peu d'espace pour vivre. C'est par exemple que les enfants, ils aient de l'espace pour pouvoir faire leurs devoirs dans le calme, qu'il y ait accessible pas loin de quoi rencontrer ses amis, faire du lien social, profiter de la nature ou je ne sais quoi. C'est pas difficile hein, d'imaginer ce que pourrait être la vie dans des logements confortables.
Alors, est-ce que vous imaginerez, par exemple, de socialiser complètement le logement, de le sortir du marché privé?
Nous, faire la révolution, changer la société, c'est organiser la société autrement. C'est organiser la société pour les besoins de tous. Alors, organiser la société pour les besoins de tous, c'est recenser tous les besoins, combien il y a d'habitants qui ont besoin d'être logés, combien il y a de familles, combien ça représente de familles, etc. Et à partir de là, on organise le plus logiquement possible. C'est pas très compliqué, en fait, hein, si on y regarde bien.
Ok. Est-ce que l'un de vous a encore des questions sur la thématique du logement?
Pas vraiment, je peux passer à la thématique suivante.
Ok, alors on va aborder la police municipale. Donc, voilà, j'avais rédigé comme introduction à cette question Limoges d'ici fin 2026 comptera 350 caméras de surveillance, en tout cas à en croire le livre à Limoges de janvier 2026. Donc, face au développement des caméras de surveillance et in fine au développement de la police municipale, mais même du coup plus globalement au développement de l'état policier, quelle est votre ligne en tant que liste candidate à la mairie de Limoges?
Elle est bien ta question, parce que c'est comme ça qu'eux, ils parlent. Et c'est important de dire que ça, c'est de la poudre aux yeux. Enfin, c'est révoltant, même la manière dont ils posent le problème. À chaque élection, ils nous font le coup de la sécurité, et à qui il faut plus de police, plus de caméras, des drones, à qui veut faire une nouvelle brigade à cheval, à vélo, à trottinette. Enfin, il faudra tout pour faire de la police, quoi. Ils en sont, c'est plus à armer la police, ils en sont à dire qu'il faut des engins armés, des engins blindés et des armes de guerre. Et ça, d'élection en élection, le sentiment d'insécurité ne diminue pas. Moi, j'ai même tendance à penser que ça l'augmente, l'insécurité. Vous vous souvenez du reportage à c'était TMC ou je sais pas quoi, bref, la police municipale à Limoges. Tu voyais. La police municipale allait faire les cow-boys devant les lycées parce qu'il y avait deux adolescents en train de fumer. Sortir leurs armes, les gazeuses, parce qu'il y avait un type sous à la sortie d'un bar. Jouer à Starkey Hutch, gyrophare hurlant parce qu'il y a une mobilette qui tourne dans un quartier. Je sais pas si tout ça, ça augmente le sentiment de sécurité, mais moi, la question que je veux poser sur la sécurité, c'est qui nous protège de la police ? Dans la société capitaliste, la police, elle a deux rôles. Effectivement, protéger des citoyens parfois, mais surtout, ce sont des chiens de garde de l'ordre social. Ils sont là pour défendre les possédants, les dominants. Ils sont dressés et entraînés à mordre les pauvres. Quand on se révolte contre une loi injuste, c'est nous qui vont matraquer. Dans les manifs, j'ai pas l'impression que quand ils se mettent à charger des lycéens ou à les matraquer parce qu'ils ont déplacé une poubelle, ils sont en train de protéger les gens. Dans cette société, parce qu'elle est divisée en classes, il n'y a pas de bonne police. Nous, si on veut vraiment se poser la question de la sécurité, ben ça sera parce que il faut qu'on s'arme. Il faut que c'est pas la police qu'il faut armer. Il faut armer les travailleurs de conscience de classe. Il faut que ce soit politique. Il faut qu'on. Ce que tout à l'heure, Elisabeth, elle parlait de ICE, c'est ça. C'est face à une police qui tue et qui fait la chasse aux migrants. Eh ben, c'est la population qui s'organise par ses liens de solidarité. Quand ils voient l'ICE se débarquer, ils sortent dans la rue, ils ont des sifflets, ils préviennent les gens. La sécurité, c'est un vrai problème. Je veux pas dire que ça n'existe pas. Ce que je veux dire, par contre, c'est que l'insécurité, nous, on la vit tous les jours. L'insécurité au travail, c'est qu'effectivement, on peut être licencié du jour au lendemain. Ça, c'est une insécurité. Au travail, on a des cadences de fou, on se fait mettre la pression, il y a des accidents du travail. Les employeurs, concrètement, les exploiteurs, ils ont du sang sur les mains. Eux, quand on parle de sécurité, c'est pas eux qu'on inquiète. L'insécurité, elle est partout, elle est même dans la bouche. Quand on va au supermarché, actuellement, il y a la liste des produits qui sont rappelés cette semaine parce qu'ils ont laissé empoisonner. De temps en temps, parce que les travailleurs, ils sont partout dans la société. Il y a des lanceurs d'alerte. Mais ces lanceurs d'alerte, s'ils sont isolés, s'ils y restent seuls, eh bien, c'est eux qui vont aller en prison, qui vont être licenciés.
Je peux poser peut-être la question un peu cash. Du coup, si vous aviez la mairie de Limoges, est-ce que vous démantèleriez la police municipale ?
Encore une fois, on ne se pose pas la question comme ça. C'est s'il y avait des comités de quartier qui seraient en train de s'organiser pour faire en sorte qu'ils soient vraiment protégés, la police, elle servirait à quoi ? Enfin, tu vois, le problème, il s'inverse. C'est pas nous qui allons arriver à la mairie et imposer les choses. C'est nous, militants, et quand on convaincra, et il faut qu'il y ait des militants communistes partout, dans les usines, dans les quartiers, pour que justement, à chaque fois qu'il y a un problème, même un problème de sécurité, on y réponde par la solidarité, par la conscience de classe. La société capitaliste, c'est l'injustice partout. C'est la violence partout, c'est même le droit du plus fort. Actuellement, on a quand même des présidents qui sortent de prison en claquant des doigts, un autre qui va chercher le président du pays voisin et qui le ramène chez lui, un sac sur la tête, et qui l'enferme dans sa cave. Le capitalisme, c'est la loi du plus fort. Le capitalisme, c'est le truand qui réussit le mieux qui gagne. Eh bien, nous, on est contre le capitalisme. Et pour le mettre à bas, ben, ça se passera d'abord à la base. Les travailleurs qui s'organisent, la conscience de classe, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'on peut, pourquoi on peut tout changer ?
Puis sur, juste sur le comment le quoi faire ou par exemple Laurence Sud, Val de Laurence Sud, 65% de la population en dessous du seuil de pauvreté. Ben, si on s'attaque pas à la cause de ça, qu'est-ce qu'on peut, à quoi on peut s'attendre ? Qu'est-ce qu'il y a comme solution quand on est quand il n'y a aucune perspective, quand justement là où on vit, il n'y a aucune solution à ces problèmes. Parce que à un moment, c'est quand même aussi ça qu'il faut dire, c'est que là, on peut discuter police machin etc. Mais la cause de tout ça, quand je disais tout à l'heure le chômage, je redis répartir le travail entre tous. Tous ceux qui travaillent se tuent à la tâche. On a tous vraiment des conditions de travail qui se sont détériorées. Il y a une productivité qui augmente partout. Partout, on nous demande d'aller plus vite que ce qui est possible. Ça veut dire que du travail, il y en a énormément. Eh bien, répartir, donner à chacun un salaire, eh bien, on discuterait autrement des problèmes.
Oui, et donc, ça réduirait de fait les, les problèmes de, d'insécurité
enfin,
au sens policier, hein, bien sûr.
Oui, non, mais après, bon.
Du terme.
Oui, oui, mais enfin, comment est-ce qu'on ne peut pas. Enfin, moi, je sais pas. Mais si on a, on vient de discuter, si on a un logement, si on a un salaire correct, si on a des conditions de travail correctes, enfin, etc. Bah, c'est, enfin, je pense quand même que les relations, elles seront plus faciles.
Et ça apaisera.
Bah, se dire que un gamin, là, les gamins, on discute là des gamins qui traînent, etc. Mais un gamin qui voit que il a aucune place dans la société, aucune place dans la société. Bah, ce gamin, il peut que grandir avec une certaine rage. Alors cette rage, comment il l'exprime après ? Ben, des fois, il l'exprime voilà, dans plein de manières possibles. Mais sans, avec une vie autre, avec là aussi des capacités, enfin des moyens pour se réunir, pour discuter, pour vivre, pour voilà, parce que c'est pas le cas aujourd'hui. Vous savez, pour avoir, il y avait un article aujourd'hui dans la presse sur les adolescents qui arrêtent le sport. Hein, quand on lit l'article jusqu'au bout, on voit que ce qui pèse, c'est les équipes, ne serait-ce qu'acheter les équipements, la cotisation pour le club, etc. Ben oui, parce que c'est ça le problème de la misère. C'est que la misère, ça enlève les accès à tout, ça enlève les accès à la culture, ça enlève les accès à pouvoir élargir la vision des choses, comprendre le monde, etc. Et nous, c'est ça qu'on veut changer, c'est ça qu'on dénonce.
Nous entendons, et donc du coup, dans la continuité de votre propos, on va aborder un nouveau thème qui est un peu dans le nerf de la guerre, sous un certain nombre d'aspects. L'école. Alors l'école à Limoges, par exemple, il y a eu un. En fait, on va aborder ça de deux manières. Déjà, d'un point de vue rénovation du bâtiment. Comment, en fait, j'entends votre position et voilà, elle est bonne. Mais ce que je veux dire, c'est plutôt les rénovations des écoles. Par exemple, on a eu une école qui a été rénovée pour des dizaines de millions d'euros. Donc, c'est l'école de Condorcet-Roussillon. Alors, je suis amené à travailler dans ces écoles épisodiquement. Et en l'occurrence, j'ai été dans cette école-là pendant la période de canicule de l'année dernière. Donc cette école qui a été rénovée à beaucoup de millions d'euros a été finalement, comme les autres, fermée. La municipalité quand même est dans un rôle, disons d'un point de vue technique, quoi, de changer le paradigme de la rénovation, le paradigme qui pousse, c'est-à-dire concevoir autrement les rénovations. Voilà, qu'en dites-vous ?
Bah alors d'abord sur la rénovation, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur quand même le pognon que c'est pour les gros du BTP, hein, et que derrière, une des premières choses qu'on peut dire sur ces questions-là, c'est de dire pourquoi est-ce que les mairies elles embauchent pas massivement, pourquoi est-ce que tous les maçons plaquiste, spécialiste du photovoltaïque, etc. Enfin bon, il y en a plein. Il y a plein de gens qui cherchent du travail. Et pourquoi est-ce qu'on a besoin de, encore une fois, passer par engraisser les actionnaires dans ces programmes qui sont quand même des programmes qui ont des budgets très, très conséquents. Alors après, nous, quand on dit les travailleurs, ils sont à la base de tout, ils font tout fonctionner. Ben certainement que pour une rénovation, un truc qui serait pas mal, c'est de demander aux travailleurs d'avoir, parce qu'il y a la conception, etc. Et puis après, il y a quand même aussi au bout après de la chaîne, des travailleurs qui souvent savent qu'en faisant comme ça, ça va pas le faire. Parce que souvent, nous, quand on discute comme ça avec, on rencontre des travailleurs qui nous racontent qu'ils voyaient très bien dans une construction qu'ils faisaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ou, par exemple, on leur a dit de continuer à faire quelque chose, alors je vais un peu caricaturer, avec du béton qui n'était pas tout à fait de bonne qualité, ou bah, il pleuvait, c'est pas grave, on n'a pas trop le temps d'attendre que ça sèche, parce que, etc. C'est-à-dire que quand il y a le profit derrière, bah, ça ne peut pas être fait correctement, en fait. Pas des travailleurs qui le font, mais des conditions dans lesquelles on est. Et un des gros problèmes, des fois, c'est ça. Et là, c'est pareil, c'est voir autrement, se poser la question autrement de quoi on a besoin. Ben, on est toujours limité dans cette société. Pourquoi est-ce qu'on peut pas... j'imagine, tout à l'heure, il disait on imagine, mais pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas des bâtiments d'hiver, des bâtiments d'été, enfin c'est-à-dire de se dire comment faire pour qu'on arrive à s'adapter?
Et alors, pour aller voir les travailleurs et les travailleuses justement là-dedans, est-ce que ça pourrait être intéressant d'aller voir les travailleurs et les travailleuses ailleurs dans le monde, qui sont confrontés...
Bien sûr. Nous, on est internationalistes. Alors, quand on dit le camp des travailleurs, il y a le camp des travailleurs de Limoges et de la planète. C'est le même camp. Et bien sûr que, bah oui, il y a des, comment il existe des techniques d'aération, etc., qui sont. Mais oui, mais là encore, c'est nous, on est pour justement que la culture, la technique, la technologie, elle circule. Dans cette société, on est limité par les brevets, par les secrets, on est limité par les frontières. Pour ça, il n'y a que des limites dans cette société pour que tout tourne à l'envers. Voilà. Alors, après, quand même, ça me fait quand même penser qu'on tient à dire quand même que le capitalisme, c'est-à-dire cette société qui est que basée sur le profit, elle fout en l'air la planète quand même. Parce que réfléchir à comment est-ce qu'on peut s'adapter à un climat qui va être de plus en plus déréglé, là c'est pareil. Il va falloir, parce que de toute façon, on ne pourra pas revenir sur tout, mais il faut surtout se poser le problème de comment les arrêter. Parce que là, sinon, on ne pourra pas de toute façon lutter contre les éléments une fois que tout sera déréglé. C'est, encore une fois, faut tourner le truc à l'envers.
Ok. Et alors, du coup, dans la continuité de l'école, et justement, il y a un groupe de travailleuses qui, depuis 2 ans au minimum, s'organise pour intervenir à la mairie. Donc, elles ont essayé. Donc, vous voyez de qui je parle. Je parle des ATSEM de Limoges qui s'organisent en collectif. Elles semblent attendre une reconnaissance de la municipalité, mais aussi l'octroi de ce qu'elle demande, c'est-à-dire notamment 8 jours de suggestion. Vous, si vous remportez la mairie, il n'y a pas de question à se poser. Les séjours sont accordés parce que les travailleuses sont à l'initiative et les demandent.
Ça là-dessus, il n'y a pas de question. Mais là, quand même, sur les ATSEM, là, pourquoi les jours? C'est parce qu'effectivement, leur travail, il est extrêmement pénible. Parce que le bruit, dans une petite école, il faut se rendre compte de ce que c'est. Les charges, etc. L'organisation qu'on leur propose. Encore une fois, si on répartit le travail entre tous, on travaille moins. Et tous les boulots pénibles, on les fait. Le nombre d'heures qui ne met pas en danger notre santé. Bien sûr, pour un salaire qui permet avec le même salaire, je ne suis pas en train de dire qu'il faut du temps partiel, c'est déjà assez le cas. Et là, quand même, on a des personnels là qui sont indispensables pour s'occuper des petits. C'est indispensable à la vie d'une école. Le salaire, c'est un SMIC et c'est pas de reconnaissance de toute façon. Et quand même, quand on parle de l'école, je veux parler aussi des AESH. Vas-y.
non, allez-y. C'est que je fais ce métier, pour ceux qui écouteront.
Parce que ça, c'est quand même un vrai problème, au-delà du fait qu'il n'y en a vraiment pas assez. Mais c'est l'exemple même dans cette société d'un métier utile. enfin même indispensable, que ceux qui le font en se dévouant plus que ce qu'on leur demande souvent, parce que justement même on a affaire à des humains. Et là, ça fait depuis le début, et même récemment encore au Sénat, où on dit « Ah non, pas de temps plein. Pas de temps plein. » C'est-à-dire, pas de quoi vivre.
Pas de titularisation.
Alors, pas de statut. Pas de statut qui pourrait permettre des augmentations de salaire, une carrière, etc. Hein, et ça veut dire rester dans la précarité, rester en général avec 900 euros par mois, c'est-à-dire pas pouvoir vivre. Et ça, c'est pareil, il faut l'accepter. Voilà, nous on dit, ça il faut quand même, parce que dans les écoles, là il va y avoir des suppressions de postes, il va y avoir des suppressions de classes, certainement. À Limoges, il y en a eu quand même, la ville de Limoges, elle a été pas mal touchée ces dernières années, parce qu'il ne faut pas penser que c'est les petits villages dans lesquels on ferme des écoles. Hein. Ils ont fermé des classes dans les quartiers populaires, en plus à Limoges, et tout ça, ça se dégrade. Et tout ça, ça marque quand même ce qu'est la société. Parce que la société, elle devrait faire de l'école une priorité absolue.
Justement, pour passer un...
Rapidement, AESH, est-ce qu'on peut juste définir vite fait?
Oui.
Je ne crois pas qu'on ait dit ce que c'était que le travail. Mais...
accompagnant d'élèves en situation de handicap. Okay. Et les ATSEM sont des accompagnantes d'élèves à la maternelle.
Voilà, comme ça pour les gens qui ne savent pas.
C'est vrai. Justement, en parlant de fermeture de travail, là, on va passer au sujet de la culture, parce que ces dernières années, on a vu une baisse importante des financements pour la culture nationalement, mais aussi localement, avec, par exemple, en 2022, le nombre d'ateliers des centres culturels qui est passé de 300 à 200. Et du coup, comment vous envisageriez d'administrer les centres culturels, comment vous voyez la culture avec votre vision, notamment pour les travailleurs dans ce secteur et aussi les personnes qui y participent, qui veulent dessiner, écrire, tout ça.
Je continue. Là, c'est pareil, hein, c'est des questions de choix, c'est des questions de choix de société. Hein, parce que je reviens sur le niveau national d'abord. Là, la société, elle va où, là? C'est-à-dire que quelles sont les priorités, quelles sont les décisions? Ben là, les priorités, c'est le budget militaire. C'est-à-dire qu'on enlève à la culture, hein, et c'est des dizaines de milliards supplémentaires pour produire des armes. C'est mettre en place le service militaire. C'est faire un pôle par un général à France Travail, pour donner envie d'aller produire des armes. C'est les militaires qui sont de plus en plus présents à l'école, je reviens à l'école, pour justement faire l'armement moral, comme ils disent, hein, pour préparer à ce que les jeunes acceptent de devenir la chair à canon pour la guerre qu'ils préparent, hein, parce que là, on voit très bien que la marche à la guerre, elle est enclenchée. Alors là-dedans, eux, la culture, c'est le dernier de leurs soucis. Et la situation, elle va se dégrader. Alors après, au niveau local, je dirais après, tous les choix, c'est pareil. C'est-à-dire que on peut faire le choix de continuer à donner aux plus riches, et puis on peut faire le choix de se dire, la culture, ça devrait être un bien commun à tout le monde. Les musées, ça devrait être gratuit. C'est-à-dire avec un personnel suffisant, etc. On parle des ateliers. Quand je disais tout à l'heure, comment est-ce que, même quand on parlait de la sécurité, comment est-ce qu'avec un salaire ou avec des conditions de vie correctes, la situation, elle changerait? Comment, avec des ateliers de plein de choses, c'est-à-dire développer toutes les envies? Moi, si on me disait demain que je pouvais faire un petit peu tout ce que je voulais, je sais que sur le coup, j'aurais peut-être pas complètement beaucoup d'idées. Je me dirais, une ou deux. Mais justement, la vision qu'on peut avoir de l'humanité, c'est de se dire que l'humain, il est curieux, il est intelligent, ce que tu disais tout à l'heure. Il a plein d'initiatives. Et ça devrait être ça, la vie. La vie, ça devrait être de faire plein de choses et d'avoir le temps, justement, de ne pas passer toute sa vie, finalement, presque à travailler. À faire que ça, à être épuisé le soir pour pas réussir à, à ressortir ou demander un tel effort pour aller faire comment aller dans un atelier, etc. Alors nous, bah oui, bien sûr que ce qu'on développe comme même enfin un projet, une autre société, elle aurait même pas peut-être une place particulière à la culture. La culture, ça serait la vie. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut. Enfin, faut aller vers ça. Moi, la société qui me fait envie, c'est justement que on aille au bout de toutes les possibilités que l'être humain il a sur tous les domaines.
C'est être communiste et révolutionnaire. Mmh. Cette histoire de culture, elle est ultra importante parce que justement, on en a besoin. On vit dans une société d'exploitation qui nous oblige à faire bosser du matin au soir et d'être crevé. Oui, la culture, c'est ce qui permet de vivre. On est révolté par cette société parce qu'elle nous bouffe. Donc la culture, pour moi, ben, je ne sais pas comment le dire, mais enfin, c'est justement pour ça qu'on est révolutionnaire, pour ça qu'on est révolté contre cette société là actuellement. Parce qu'actuellement, quand on parle de culture, c'est comment on va pouvoir tirer du profit.
Et alors, dans la continuité de cette thématique, justement, si vous remportez la municipalité, par exemple, donc les lieux existants à Limoges, donc on pense au CCM, mais on peut penser aussi à d'autres institutions qui peuvent, dans le cadre d'un nouveau projet politique, rentrer en confrontation, en lutte même, in fine, parce que voilà, on parle de la culture et on sait que la culture nous imprègne, mais que à l'heure actuelle, il y a plusieurs cultures. Quand je dis plusieurs cultures, je veux pas rentrer dans les termes polémiques, je veux plutôt dire la culture bourgeoise et la culture ouvrière qui s'affrontent. Donc comment, en administrant une ville, on fait avec cette situation-là? Et je pense du coup à des lieux précis où on a par exemple les CCM qui sont évoqués, qui paraissent en tout cas sur le papier beaucoup plus propices à une population qui a peu de moyens financiers, et à l'inverse un théâtre comme le Théâtre de l'Union qui a son histoire. L'idée c'est pas du tout de renier l'histoire, mais qui à l'heure actuelle propose un projet culturel bourgeois.
Alors, je vais pas avoir un avis sur le projet culturel, parce que je sais pas si faut opposer. Moi, je oppose pas la culture quand l'accès justement à tout, l'accès à ben, aujourd'hui la barrière financière. La barrière sociale, c'est-à-dire le dire qu'on n'a pas l'habitude de reléguer justement dans un camp, de dire que ben on n'a pas, quand on n'a pas les moyens, on doit pas y aller, on doit pas, etc. Ça c'est une vision de comment dans cette société. Mais moi je pense que toute la culture elle a un intérêt pour tout le monde, et il y a pas d'opposition à faire, mais il y a simplement à donner accès à tout. Et vas-y.
Tu vas me détester, mais je pense que tu poses encore une fois le problème à l'envers. la mairie, comment on fait, comment on impose? Nous on est communistes et révolutionnaires. C'est les staliniens hein, qui avaient une vision de la culture, elle est bonne, elle est comme ça, la culture mauvaise, c'est l'autre, machin. Nous, c'est pas ça. Nous, c'est à la base. Je te trouve très dur avec le Théâtre de l'Union. Alors, j'y étais pas hier soir, mais il paraît qu'ils ont fait un spectacle où ils récupéraient des objets et des biens pour les reverser au Secours catholique ou le Secours populaire, je sais plus. Je connais pas bien l'histoire de l'Union, mais ils font des choses et les spectacles qu'ils proposent, ça permet quand même un autre regard sur le monde. Je sais pas si c'est particulièrement bourgeois, mais ce que je dis, c'est qu'en tout cas, les élèves étudiants à l'Académie de l'Union, ils proposent des choses, c'est leur vision, et j'ai pas envie de les faire taire non plus. J'ai envie de voir ce qu'ils proposent, pouvoir en profiter.
Effectivement, enfin, c'était une opposition caricaturale. C'est juste que, en tout cas, à l'heure actuelle, les travaux en sociologie nous montrent que le théâtre de l'Union et les CCM ne sont pas fréquentés par les mêmes milieux sociaux. Et que du coup, il y en a quand même l'un qui, à l'heure actuelle, a la chance de fonctionner, sous subvention publique, enfin, même qui est, au-delà même, c'est pas des subventions, enfin, qui rentre dans le fonctionnement municipal, et l'autre qui, lorsque les subventions publiques diminuent, se retrouve à augmenter ses prix, finalement, pour, et du coup, ben, par l'argent, on est dessus. C'est plutôt dans ce sens-là, hein, mais bien entendu, je ne pose pas, enfin, je ne veux pas de soucis.
Je veux qu'on ait tous accès à la culture. Je pense que c'est ça. Et cette question de les gens qui en font du profit, c'est eux le problème. C'est pas le fait que nous, on puisse pas y aller.
Donc, du coup, pour clore ce sujet, les centres culturels, du coup, ça répondrait à tout ça. Enfin, c'est pour l'accessibilité à tous et à toutes. Et du coup, c'est quelque chose que vous soutiendrez, j'imagine. Et du coup...
Ouais, on passe à la... Et bien, du coup, on passe à une prochaine thématique, qui est celle des transports, des mobilités, ça dépend comment on va l'appeler ça. Première question, c'est sur le réseau cyclable. Si vous étiez à la mairie de Limoges, est-ce que vous mettriez en place un réseau cyclable de grande envergure pour rendre la ville accessible à toutes et tous?
Et attention, c'est des questions très pratico-pratiques.
Hein. Pratico-pratique, on peut aller sur peut-être de manière plus générale, comment vous envisagez les manières de se déplacer dans la ville. Ça peut être ça aussi la question.
Là, effectivement... ta question, c'est sur...
La cyclabilité de la ville.
Oui, le vélo. Donc, j'ai des collègues qui, quotidiennement, ils viennent au travail. Pour eux, ça dépasse le cadre de le vélo, c'est sympa. Hein, c'est une question. Pour eux, c'est l'avenir de la planète qui est en jeu. Alors, ils font leur geste individuel de prendre leur part et de dire, notre truc, c'est de faire au moins ça. Si on voulait augmenter la cyclabilité à Limoges, c'est assez simple. Tu prends un point A, un point B, tu traces une ligne droite la plus droite possible et tu dis la priorité, c'est au vélo. Ensuite, on fait des transports en commun parce que tout le monde n'a pas accès au vélo. Et la voiture, à la fin, il faudra qu'elle zigzague, qu'elle passe par les autres routes et qu'elle laisse la priorité au vélo. Si on voulait améliorer la cyclabilité et faire quelque chose pour le vélo à Limoges, c'est ça qu'il faudrait faire. Mais ça, c'est poser la question d'un point de vue petit geste individuel. C'est pas ça qui va sauver la planète là, tout de suite. L'essentiel des trajets, actuellement, ils sont faits pour aller au travail. Les travailleurs, quand ils embauchent à 6 heures en zone nord, quand tu es un intérimaire, que le lundi, on te dit qu'il faut que tu ailles 30 km au sud de Limoges, le mardi à 50 km au nord... quand tu es travaillant en restauration, tu débauches à 23 heures. Quand tu travailles dans les supermarchés et qu'on te fait une pause de 3 heures, de 15 heures à 18 heures, il y a plein de situations où, en fait, c'est pas nous qui décidons de nous déplacer en vélo ou pas. C'est on nous impose la voiture. Et c'est pour cette raison que c'est un peu... Nous, on veut absolument pas culpabiliser les travailleurs qui utilisent la voiture. Et au final, c'est au patron... à ceux qui nous embauchent, qui devraient payer tous les aménagements du transport, que ce soit le vélo, les transports en commun. C'est eux qui veulent qu'on se déplace, ils veulent qu'on soit à l'heure au boulot, mais c'est à eux de payer tous nos transports. Et s'il n'y a pas d'autres moyens, qu'ils nous payent même une voiture, son entretien et ce qu'il faut pour le rouler avec, quoi.
Et alors, peut-être pour Max, enfin justement, pour la mairie, pourrait tout à fait, avec la métropole, il y a des moyens. Favoriser des infrastructures de transport en commun. Et je pense notamment au projet de tram-train Limousin. Est-ce que ça vous paraît des projets peut-être révolutionnaires même dans leur forme?
Révolutionnaire, c'est compliqué parce qu'ils existent déjà. Tu vois, les solutions concrètes, elles sont là. Ce qui manque, c'est que les travailleurs, ils imposent d'utiliser ces histoires de tram et de tram-tram. Enfin, tu vois, les infrastructures, elles sont là. Le problème, ce qui manque, c'est que nous, quelle force on a pour imposer le fait qu'actuellement, les gens, quand ils se posent, enfin, les capitalistes, quand ils se posent la question du transport, c'est combien ça va leur profiter? Est-ce qu'ils vont pouvoir faire des lignes sur lesquelles ils vont gagner de l'argent? Eh bien, si on organise la société en fonction des besoins de la population, c'est pas comme ça qu'on y répondra.
Et puis c'est quand est-ce comment est-ce que on cherche le besoin? Parce que là aussi, on va organiser des plans de transport, etc. Mais je pense qu'à aucun moment, il y a vraiment un avis qui est demandé de bah, où est-ce qu'on travaille, de quoi on a besoin, etc. Moi, je suis dans un lycée où il y a trois lycées un peu dans le même endroit. Et c'est pas très très bien coordonné. Enfin, sans trop être un grand expert, on pourrait voir qu'il y aurait des moyens de pas faire qu'un élève y mette une heure pour traverser la ville. Enfin, le matin pour 8 heures et le soir après 17 heures, quoi. Et ça, c'est voilà, on décide pas. Et ben c'est voilà, nous c'est on veut que les travailleurs ils agissent par eux-mêmes, c'est-à-dire que eh ben eux ils organisent le transport en fonction de leurs besoins, parce que c'est ça. Et puis par rapport au pognon qui est fait dessus, hein, tous les transports, là aussi c'est des délégations de services publics. Là aussi il y a des grands groupes dont les actionnaires profitent de cette nécessité de transporter la population pour aller bosser, pour se faire de l'argent dessus.
Donc on renationalise par exemple la SNCF et tout ce qui est infrastructure de transport.
Alors parce que quand on dit nationalisation, il faut toujours faire attention, parce que toutes les nationalisations qui ont eu lieu, les capitalistes, ils en ont tiré profit parce qu'on leur a donné quand ils ont nationalisé. Puis une fois que ça a été bien... Que le profit revenait, on leur a redonné, et là, pas gratuitement ou quasi. Donc moi, je ne parle pas de ça. Mais je parle d'organiser à la base, d'organiser par les travailleurs. Et ça, c'est organiser, c'est dire et faire payer les patrons qui tirent profit des travailleurs. Ça, c'est... Voilà. Le Grand, hein, je dis 1 milliard de bénéfices. L'entreprise Le Grand, 1 milliard de bénéfices. Alors l'argent, il y en a.
Je vais revenir rapidement du coup sur ce projet de 2x2 voies au nord de Limoges. La métropole met 10 millions d'euros sur ce projet-là. Si vous dirigez la métropole, qu'est-ce que vous feriez avec ces 10 millions d'euros qui ont été votés?
Ah, à la place du 2x2 voies?
Ouais. Est-ce que vous annulez ce financement? Est-ce que vous le mettez ailleurs? Qu'est-ce que vous en faites?
Moi, c'est à chaque fois que tu me dis si on avait la mairie, machin, tout ça, on est communiste et révolutionnaire. C'est pas la mairie qu'on veut, c'est le pouvoir. C'est que la population, que les travailleurs, ils s'organisent et ils décident par eux-mêmes. Tu me poses la question de 2x2 voies, c'est pas moi qui y répondrai. C'est les gens qui y habitent, les gens qui en ont besoin, les transporteurs, ils pourraient dire, donner leur avis sur est-ce qu'on a besoin vraiment d'une route, est-ce que ça serait pas mieux de passer par le ferroviaire. C'est pas la mairie, la métropole qui doit prendre cette décision-là, c'est les gens qui en ont besoin, les gens qui roulent, les usagers, les travailleurs, les gens qui habitent là. Est-ce qu'ils ont vraiment envie que cette autoroute elle soit construite sur leur terrain? Et évidemment que non. Mais les travailleurs, ils sont intelligents. Si tu leur donnes une bonne raison et que tu leur expliques qu'il n'y a pas d'autre moyen et que c'est par là qu'il faut passer, ben pourquoi pas? Et nous, la société, elle prendra en charge le fait que, ben, on te trouvera une autre maison ailleurs, mieux. Pourquoi pas ? Enfin, tu vois, on ne pose pas la question de cette manière-là. On veut changer la société. On veut que les capitalistes, ils arrêtent de penser à leur profit et qu'on pense aux besoins.
Alors, si tous les travailleurs du coin, ils décidaient qu'effectivement, ils veulent construire cette route, on y va et...
Et alors pour pousser un peu plus loin... pour pousser un peu plus loin, par exemple, imaginons que les travailleurs du routier sont pour cet aménagement, mais qu'en même temps, le transport de marchandises est une des raisons de la situation actuelle. Comment on fait avec ces
contradictions?
C'est pas une contradiction. Le besoin, c'est transporter des marchandises d'un point A à un point B. La question, c'est la société actuellement, ils développent le routier et les camions. Parce que c'est ce qu'il y a de plus rentable. Si on se pose la question de, si on enlève la question de qu'est-ce qui est rentable, comment on transporte une marchandise d'un point A à un point B, mais peut-être même qu'on organise la société différemment, plus intelligemment, et que les transports, ils n'ont pas besoin de se faire dans tous les sens. Parce que la société actuellement, telle qu'elle est organisée, elle est complètement anarchique. Enfin, tu as des produits qui te vont d'un point A à un point B pour rien, pour faire apposer un logo Made in France.
Mais sur la question des routiers, c'est-à-dire opposer les travailleurs, parce que dans cette société, très souvent, on cherche à opposer, justement, on cherche à opposer les travailleurs en disant ah bah, si vous faites ça, ça sera contre ça, etc. Bah, non, la question, elle se pose de le routier, quand il défend la route, bah, il défend son travail, en fait, tout bêtement. Et qu'à un moment, justement, la question, elle n'est jamais posée comme ça. Elle n'est jamais posée en disant, ben, on réfléchit à comment faire avec tout le monde qui garde son travail. Parce que c'est ça, là, souvent, l'opposition qu'il y a. Et qu'après, eh ben, si on peut... Bien sûr que... quand on dit agir par eux-mêmes, les travailleurs, quand on dit s'organiser, quand on dit discuter, quand on dit définir ses intérêts... Bah, c'est pas toujours être d'accord d'un seul homme, etc. C'est pas un problème, ça. C'est pas un problème. On peut trouver des solutions. Mais, encore une fois, là, par exemple, sur la question de la route ou pas là, c'est opposer les travailleurs. Ça, c'est un danger. Nous, on lutte contre toutes les divisions. Parce qu'on est dans une société où, justement, on veut toujours penser que l'ennemi, c'est celui qui est un peu comme nous, à côté. Hein. Bah, nous, ça, on le refuse. Et que les travailleurs, justement, quel que soit... nous, on dit aussi, quel que soit leur statut, quel que soit leur métier, mais on dit aussi qu'ils soient français, immigrés, qu'ils aient des papiers, qu'ils aient pas de papiers, eh ben, on doit s'unir. On doit s'unir pour trouver des solutions, et on doit s'unir pour se défendre, pour lutter. Et comme ça, dit comme ça, justement, et quand il y a des bagarres, quand il y a... nous, on sait que notre sort, il ne changera que par des luttes collectives, massives. Et bien, quand il y a une remontée des luttes, ben, on voit que ce n'est pas les questions des divisions qui se posent. C'est les questions de comment faire ensemble. Et on voit que tout change, justement, dans les rapports qu'il y avait entre les uns et les autres. Là, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est justement qu'on est à un moment où les mobilisations... Eh ben, il n'y en a pas, ou il y en a très peu. Ben, c'est ça qui peut aussi changer les choses. Nous, c'est ça qu'on veut dire aussi dans notre liste. On veut dire, on affirme ceux qui disent que ben, voilà, c'est la lutte qui changera notre sort.
Bon, il y avait des questions que j'avais sur l'abattoir, mais en fait, ça pose les mêmes questions un peu d'équipement et de comment les financements sont décidés. Aujourd'hui, il y a les clients de l'abattoir public de Limoges, ce sont des paysans, donc avec un statut de travailleur un peu particulier, puisqu'ils sont à la fois patrons et travailleurs. Il y a des agents publics qui travaillent dans l'abattoir, il y a des prestataires de services aussi, et in fine, il y a des personnes qui mangent de la viande. Mais du coup, comment tout ça s'organise, comment on décide des financements pour un outil qui est vieillissant et qui est... Enfin là c'est un exemple, mais en fait ça va se poser pour les transports, pour les écoles, etc. Donc c'était...
Moi ce que je peux dire de la question de l'abattoir, parce qu'on en parle, enfin on a parlé, c'est que c'est quand même une aberration. Que les paysans doivent, enfin que les bêtes, parce que les paysans justement ils font pas le trajet, mais qu'il faille faire 300 km pour que les porcs soient abattus, puisqu'il n'y a plus l'abattage des porcs à l'abattoir de Limoges. Bon, moi quand je vois ça, on se dit c'est quoi le problème ? Eh ben, le problème c'est. Il faut remettre aux normes un endroit. J'ai cru comprendre que les paysans, en tout cas les petits paysans, ils demandaient à pouvoir abattre le plus près de leur exploitation et peut-être à l'abattoir si c'est aux normes. Voilà. eh ben on met aux normes, et puis les petits paysans, ils viennent abattre leur porc dans un endroit où les normes sanitaires, elles sont... tout ça, c'est toujours une question de pognon. Enfin, parce que derrière, c'est que une question de, c'est que une question de pognon, là, qu'il y a. Parce que même quand on nous dit c'est vétuste, etc., c'est tout des choix. C'est des choix de à qui est-ce qu'on à qui est-ce qu'on donne de l'argent. Je prends un exemple quand on parle d'aménagement ou etc. Mais la zone des cassots, 1,3 million dépensés par la collectivité pour le Crédit Agricole. Crédit Agricole de, j'ai perdu les milliards de bénéfices, je crois que c'est vers 7, enfin quand même on est au milliard, hein, on est, voilà. Et puis ils sont très contents pour l'année à venir où ils n'ont pas encore donné le chiffre. Donc là, ces choix-là, parce que l'aménagement qui a été fait, moi je vois pas d'autre intérêt que d'aller au Crédit Agricole, enfin, il n'y a pas d'autre intérêt que ça. Ben ça, c'est des choix. Alors, je sais pas ce qu'on peut, enfin, avec ces 1 million, je sais pas combien il faudrait, et je pense que c'est pas des grosses sommes qu'il faudrait à l'abattoir pour le rendre, justement, avec des conditions de travail le mieux pour les ouvriers de l'abattoir, des salaires corrects pour eux, les animaux traités au mieux qu'ils peuvent être traités. Voilà, c'est des choix, tout ça, c'est des choix.
Oui, dans votre logique, il y a des travailleurs et des travailleuses qui ont besoin de l'abattoir, donc l'abattoir se doit d'être là parce que il est nécessaire. Est-ce que on a le temps encore d'aborder une question, disons un peu plus politique ?
Ouais.
C'est pour le plaisir d'en parler. Hein. Enfin, je dis pas que.
C'est la première question politique.
Oui, c'est ça, on n'a pas parlé politique.
Et après, encore une fois, c'est intéressant quand tu le dis. Parce que oui, les élections municipales, quoi, tous, ils défilent et ils t'expliquent qu'il ne faut pas politiser le sujet.
Oui, oui, non, oui, bien entendu. Non, c'est...
Nous, on le politise. Et tu as bien raison de dire qu'on veut parler politique.
Moi, je veux parler politique aussi. J'aime beaucoup le fait que, effectivement, la politique soit un sport populaire, disons. Je voudrais plutôt revenir sur la question des salaires. Et en fait, donc des bons salaires pour tout le monde, ça, il n'y a pas de souci. Mais pour faire quoi avec ces salaires ? Est-ce qu'on consomme avec ces salaires ?
Alors, la première utilité d'un salaire correct, c'est de vivre. Parce que là, quand même, quand on parle de la situation sociale aujourd'hui, c'est quand même que la majorité de la population, elle ne se pose pas trop la question de comment elle consomme. Parce que au 15 du mois, il n'y a plus rien. Alors quand au 15 du mois, il n'y a plus rien, qu'on est surendetté, etc., on n'a pas de risque de trop consommer. Alors quand on parle d'un bon salaire, on parle d'un salaire pour vivre. Quand je dis 2000 euros net par mois, on ne va pas loin, en fait. Et ce n'est pas ce qu'a la très grande majorité de la population n'a pas, les 2000 euros net. Donc voilà, parce que c'est pareil. Là.
Et pour le salaire médian est à 2000 euros, donc il y a la moitié de la population qui a plus de 2000 euros. Ça fait la moitié qu'on a moins.
Oui, alors ça fait la moitié qu'on a moins. Mais en plus, comment dire, c'est voilà, le aujourd'hui, les agents territoriaux par exemple, même les agents territoriaux de la municipalité ou de la métropole, il y en a une partie, ils sont de catégorie C, il faut leur donner des primes pour arriver au SMIC. C'est ça la réalité, parce que bon, bien les moyennes et les trucs, ok. Mais là, on est encore à devoir donner une prime parce que le salaire, il est en dessous du SMIC dans les collectivités territoriales. C'est voilà, on en est là. Hein, les trois quarts, ils sont de catégorie C, la plus petite catégorie de la fonction publique. Ça veut dire que ils ont 1400, 1700 net et ils n'arrivent pas à vivre avec ça. Alors, c'est ça la situation. Mais je reviens à la consommation. Cette société, elle veut tirer du fric de tout. Ça, c'est, voilà. Il n'y a rien qui lui échappe. Tout à l'heure, on parlait de la rénovation pour, contre la chaleur, etc. L'écologie, elle l'a récupérée. La santé, c'est tout. Même l'école, enfin, d'un certain point de vue. Donc, tout, rien échappe. Rien échappe, justement, à cette société pourrie de partout. Eh bien, là, c'est pareil. C'est comme tout à l'heure quand on discutait de la culture. Eh bien, moi, je vois pas pourquoi, avec une vie correcte, on aurait envie de choses totalement inutiles uniquement. Mais par contre, se nourrir correctement, c'est-à-dire, on dit qu'il faut manger des bons légumes, etc., qu'il faut pas manger l'ultra transformé ou je ne sais quoi. Oui, bien sûr. Et puis, ou de la bonne viande, et peu, mais de la bonne viande, oui, bien sûr. Mais vu combien ça coûte, de toute façon, là, ça va limiter la consommation. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais en tout cas, c'est ça.
Si, mais ça, on appellerait d'autres, mais je pense qu'on aura plutôt l'occasion d'en discuter dans des moments...
Je veux quand même rajouter que la société, justement, si... On dit les travailleurs, ils sont capables de contester le pouvoir de la bourgeoisie et de réorganiser la société. C'est réorganiser une société avec des moyens technologiques, avec justement la modernité. C'est pas un retour en arrière. Lutter contre le capitalisme, c'est pas un retour en arrière. C'est de se dire que aujourd'hui, on a des capacités extraordinaires pour justement pas casser sa santé au boulot. Avoir des loisirs, etc. Et c'est ça que le but, c'est ça. C'est pas de nous dire que le progrès, il amène la catastrophe ou je ne sais quoi. Le progrès avec la bourgeoisie aux manettes, avec les capitalistes aux manettes, oui, ça mène à la catastrophe et ça mène même à la guerre. C'est ça le. Mais aujourd'hui, la recherche ou tous les moyens, c'est de produire, c'est de mettre au point. Les armes de guerre les plus efficaces. C'est quand même ça. Les Thalès, Dassault, etc., ils utilisent la guerre en Ukraine en ce moment pour tester leur matériel, pour faire qu'on tue de la façon la plus efficace possible. C'est ça la société dans laquelle on est. Donc voilà, c'est de ça qu'il il faut sortir de ça.
On arrive bientôt à la fin de cette émission. Rapidement, est-ce qu'en deux minutes, vous voulez aborder un thème dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant ?
Je pense que le danger, c'est ce que tu dis là, la guerre. Tu vois, aujourd'hui, presque on nous amuse avec les questions de la mairie, de est-ce qu'on va être maire ou tout ça. On ne sera pas maire. Mais par contre, l'avenir qui nous attend là, c'est la guerre. Tous, ils nous préparent. Dès l'école, quoi, leur histoire de mettre des uniformes aux enfants, de les faire marcher ou pas, de saluer le drapeau, ils nous mettent dans la tête la petite musique qu'il va falloir aller marcher à la guerre. Mais dans cette société capitaliste, on est peut-être un peu ringard avec... il va falloir prendre les choses en main. Il faut... c'est pas nous qui sommes ringards, effectivement, quoi. C'est quand même hallucinant de se dire, en 2026, la société, elle n'a pas changé par rapport à 1848. Oui, les idées de Marx et de Lénine, elles sont toujours d'actualité. Si on se présente aux élections, nous, c'est pour dire ça. C'est pour parler. On s'adresse même pas seulement aux gens qui peuvent voter. On s'adresse à tout le monde, tous les travailleurs, qu'ils aient le droit de vote ou pas. Il faut qu'on s'organise, il faut qu'on organise notre solidarité, il faut qu'on se batte. Il est hors de question à laisser la main sur cette société par des gens qui gouvernent tout, qui nous dictent leurs lois et qui nous préparent à aller mourir pour eux, quoi.
Et une dernière chose qui est importante à dire, c'est que là, on se présente aux élections et... Et justement, à chaque fois qu'on a l'occasion de prendre la parole, on la prend. Mais notre action, notre militantisme, il ne s'arrête pas aux élections. Et nous, on pense que là, c'est ce qu'on fait dans la campagne, la liste qu'on a constituée, les réunions qu'on peut faire, etc., où les gens peuvent se réunir, discuter, échanger. Et c'est un pas vers la construction d'un parti. Parce que nous, ce qu'on veut, notre perspective, notre objectif, en fait, est d'œuvrer à la construction d'un parti ouvrier, révolutionnaire, communiste, parce que il faut, à un moment donné, que les travailleurs y soient organisés de la façon la plus consciente. Et ça, eh ben, ça passe par un parti. Et ça passera, voilà. Et nous, c'est notre objectif. Et ça, c'est pendant les élections, en dehors des élections, partout où on peut.
Très bien. Merci beaucoup donc d'avoir pris ce temps, d'avoir répondu à nos questions. Pour celles et ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à partager l'émission, commenter, liker, tout ça, tout ça. Et si vous en avez les moyens, soutenez le média On est là sur Tipeee. C'est avec ce soutien-là qu'on peut continuer de faire des émissions de ce genre. C'était donc la dernière émission de cette série spéciale municipale à Limoges. On espère que ça vous aura plu. Et puis sinon, bah, à la prochaine.
Merci.